Chapitre 17. Sa reine entra à grands pas dans la salle de bal du palais, un long sac noir juché sur son épaule. Plusieurs des femmes qui l'attendaient là étouffèrent des cris de surprise. « Qu'y a-t-il ? » demanda-t-elle. « Ce sont vos habits, ma chère, » finit par répondre Daora. « Ces dames n'ont pas l'habitude d'une tenue pareille. »«
On croirait des vêtements masculins !»
s'écria Séaden avec des oscillations indignées de son double menton. La princesse baissa des yeux surpris sur sa salopette grise, puis elle les releva pour considérer les femmes rassemblées.
« Eh bien, vous ne vous attendiez pas à ce qu'on combatte en robe ?»
Après avoir étudié leurs expressions, elle s'avisa que c'était bien le cas.
« Il te reste du chemin à faire, ma cousine, » lui murmura Lukel en passant derrière elle avant d'aller s'asseoir sur un siège de l'autre côté de la pièce.
« Lukel, qu'est-ce que tu fais ici ?»«
Je pense qu'il s'agit là du meilleur spectacle qu'il y aura cette semaine. »
Il s'affala sur sa chaise, les mains derrière la nuque.
« Je ne l'aurais pas manqué pour tout l'or des coffres du Virne. »«
Moi non plus !» pépia Kaïsé.
La fillette contourna sa reine et trottina vers la rangée de sièges. Mais Daorn surgit et se jeta sur celui que sa sœur avait choisi. Celle-ci tapa du pied, puis se rendit compte que toutes les chaises étaient identiques et s'en attribua une autre.
« Navré, » dit Lukel avec un haussement d'épaules gêné. « Je suis obligée de les trimballer. »
« Tâche d'être gentille avec ton frère et ta sœur, chérie !»
le morigéna Daora, qui venait d'apparaître à son tour.
« Oui, mère, »
répondit-il aussitôt. Un peu déconcentrée par ce public inattendu, la princesse se tourna vers ses futurs apprentis. Toutes les participantes du cercle de broderie, même la majestueuse Daora et Échène les cervelaient. Si sa vêture et son attitude les avaient choquées, leur soif d'indépendance était plus vive que leur indignation. Elle laissa le sac glisser de son épaule dans ses mains. Son flanc s'ouvrit de quelques pichenettes et elle en tira une de ses épées d'entraînement dont la longue lame mince émit un crissement métallique en se dégageant. Les autres femmes se reculèrent un peu, impressionnées.
« Voici une cire !»
Sa reine fendit l'air de son arme. Selon le pays, on l'appelle aussi Khmir ou Gédavre. On a conçu cette épée au Jaador comme arme légère pour les éclaireurs, mais on l'a abandonnée en quelques décennies. Ensuite, la noblesse jaadorienne, séduite par sa grâce, l'a adoptée. Les duels sont monnaie courante là-bas, et le style précis et rapide qui convient à cette arme exige beaucoup d'expérience. Elle ponctuait ses phrases de coups de taille et d'estoc, dont elle ne se serait jamais servie en situation, mais qui avaient belle allure. Les femmes l'observaient, captivées. Ce sont les Dulas qui ont fait du duel un sport plutôt qu'un moyen de tuer un rival amoureux. L'escrime, car tel est le nom de cette activité, je vous le rappelle, est vite devenue très populaire parmi les républicains. La neutralité du Duladel tenait leur nation à l'écart des guerres et il leur plaisait de pratiquer une forme de combat qui n'avait aucune application martiale. Ils ont moucheté et émoussé la lame afin de la rendre inoffensive et codifié des règles interdisant de frapper certaines parties du corps. L'escrime n'a jamais pris racine en Arellon, puisque les Élantriens y décourageaient toute forme de combat. Mais elle a trouvé un autre terrain d'élection au Théode, avec une nuance capitale. Elle y est devenue un sport féminin. Les Théois préfèrent des compétitions plus physiques, comme la joute ou la lutte. Mais pour la femme, la cire est idéale. Sa légèreté nous permet de tirer parti de notre dextérité et... Elle sourit à Lukel. De notre intelligence supérieure. Sur ce, elle tira de son sac sa deuxième épée, qu'elle lança à Torena, qui se tenait au premier rang du groupe. La jeune fille aux cheveux d'or roux l'attrapa d'un air perplexe.
« Défendez-vous !»
dit sa reine, qui leva son épée et se mit en garde. Torena brandit la cire avec gaucherie et tâcha d'imiter la pose, mais dès que son adversaire l'attaqua, elle l'abandonna avec un cri de surprise pour mouliner en tous sens à deux mains. La princesse écarta son épée sans mal et lui plaça une touche entre les seins.
« Vous êtes morte !»
Loin de reposer sur la force, l'escrime réclame de l'entraînement, de la précision. Utilisez une seule main pour avoir plus de maîtrise et de portée. Présentez votre flanc, cela vous donne de l'allonge et vous rend plus difficile à toucher. Se disant, elle sortit une brassée de fins bâtons qu'elle avait fait couper. Il s'agissait bien entendu de médiocres substituts, mais ils serviraient le temps que l'armurier termine les tirs d'entraînement. Une fois ses élèves armés, elle entreprit de leur apprendre à allonger des bottes. C'était dur, plus dur qu'elle ne s'y attendait. Elle se jugeait bonne escrimeuse, mais n'avait jamais envisagé que posséder un savoir et l'enseigner n'aient rien en commun. Ces dames trouvaient des façons inédites de tenir leurs armes. Elles se fendaient n'importe comment, redoutaient les coups portés dans leur direction et se prenaient les pieds dans leurs jupes. La princesse finit par les laisser pratiquer isolément. Pour des combats d'entraînement, elle devrait attendre de disposer de masques et de vêtements protecteurs, et s'assit près de Luquel avec un soupir. « Un travail épuisant, ma cousine. » De toute évidence, il se régalait de voir sa mère essayer de ferrailler en robe.
« Si tu savais, » répondit-elle en s'épongeant le front.
« Tu es sûre de ne pas vouloir essayer ?»
Il leva les mains.
« Je peux me montrer extravagant, ma cousine, mais je ne suis pas stupide. Le roi Yadon mettrait sur sa liste noire tout homme prenant part à une activité réputée aussi dégradante. Déplaire au roi ne pose aucun problème si on s'appelle Eondel, j'imagine. Mais je ne suis qu'un simple marchand, je ne saurais me le permettre. »
« Je comprends. »
Sa reine observait ses élèves qui tentaient de maîtriser les bottes.
« Je crains d'être mauvais professeur. »«
Meilleur que moi, je parie, » dit-il en haussant les épaules.
« Moi, je me serais mieux débrouillée. »
Les informa Kaizé que la répétition incessante des mêmes mouvements semblait lasser.
« Ah bon ?»
lui demanda Luquel d'un ton pince sans rire.
« Bien sûr ! Elle ne leur a pas appris la riposte, ni la passe avant, ni même le sentiment du fer. »
La princesse haussa un sourcil.
« Tu connais l'escrime ?»«
J'ai lu un livre !»
répliqua la fillette d'un air hautain. Elle se pencha alors devant sa reine et donna une tape sur la main de Daorn qui l'asticotait avec un bâton pris dans la pile.
« Le pire, c'est qu'elle l'a sans doute lu, » se lamenta Luquel, « juste pour se donner l'occasion de t'impressionner. »
« Je crois que Kaizé est la petite fille la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée, » avoua la princesse.
De nouveau, il haussa les épaules.
« Elle est futée, mais ne te laisse pas avoir, ce n'est qu'une enfant. » Elle comprend en femme, mais elle réagit en petite fille.
« Je la trouve quand même étonnante, »
dit-elle en regardant le frère et la sœur jouer.
« Oh oui, » convint-il. « Il lui suffit de quelques heures pour dévorer un livre et elle possède une incroyable aptitude aux langues étrangères. Parfois, j'ai de la peine pour Daorn. Il fait de son mieux, mais je pense qu'il se sent incompétent. Kaizé peut se montrer très dominatrice. » Au cas fort improbable où cela t'aurait échappé. Mais futé ou non, ces deux-là restent des mioches et s'en occuper exige de la patience.
Kaizé, qui avait dérobé le bâton à son frère, le pourchassait autour de la pièce. Elle se fendait et portait des bottes comme pour parodier les méthodes de sa reine. Le regard de la jeune femme, en suivant leur jeu, tomba sur la porte. Celle-ci était ouverte. Et deux silhouettes se tenaient sur le seuil, observant les dames à l'entraînement. Elles s'interrompirent lorsque Shuden et Eondel, se voyant remarquer, entrèrent. Malgré leur différence d'âge, on disait qu'ils devenaient bons amis. Ils s'intégraient mal en Arelon. L'étranger à la peau brune et l'ancien soldat dont la seule présence paraissait éveiller la controverse. Mais si la présence d'Eondel déplaisait à ces dames, celle de Shuden la compensait. Quand les escrimeuses s'avisèrent que le beau seigneur Jindoé les avait observées, un accès de rougeur les balaya. Certaines des plus jeunes s'agrippèrent au bras d'une voisine, cherchant son soutien, avant d'échanger des murmures excités. Shuden lui-même s'empourpra. Eondel, pour sa part, ignora les réactions des femmes. Il se promena parmi les élèves, l'air songeur. Enfin, il ramassa un bâton, se mit en garde et enchaîna une série de bottes. Après avoir éprouvé l'arme, il opina du chef, la reposa sur son tas, puis se dirigea vers l'une des escrimeuses en puissance.
« Tenez le bois comme ceci !» lui indiqua-t-il en l'aidant à placer ses doigts. Vous serriez si fort que vous perdiez de la souplesse. Mettez votre pouce sur la garde pour garder l'épée pointée dans la bonne direction. Reculez d'un pas et portez votre botte. »
La femme, Atara, dans tous ses états parce qu'il avait osé lui effleurer le poignet, s'exécuta et allongea sa botte avec une précision et une puissance qui la surprit plus encore que le reste de l'assistance. Eondel continua de passer de l'une à l'autre pour corriger avec soin la position, la posture, la prise. À chacune, il offrit des conseils pour corriger ses problèmes spécifiques. Au bout d'à peine quelques minutes, les escrimeuses se débrouillaient mieux que la princesse ne l'aurait cru possible. Le vieux soldat s'écarta, l'air satisfait.
« J'espère que je ne vous ai pas offensé par mon intrusion, votre Altesse. »«
Certes non, messire, » lui assura-t-elle, même si elle éprouvait bien une certaine jalousie. « Montre-toi assez adulte pour reconnaître un talent supérieur, » s'enjoignit-elle.
« De toute évidence, vous êtes doué, mais vous semblez avoir peu d'expérience comme instructeur. »
Elle opina. Eondel était commandant. Il avait dû passer des décennies à enseigner aux novices les bases du combat. « Vous connaissez bien l'escrime, monsieur le comte. »«
Le sujet me passionne et j'ai visité le Duladel à maintes reprises. Faute de pratiquer l'escrime, il est inutile d'espérer qu'un Dula reconnaîtra vos talents de combattant, quel que soit le nombre de batailles que vous avez remportées. »
Sa reine se leva, se pencha et tira de son sac ses deux cires d'entraînement. « Un assaut, messire ? » demanda-t-elle d'un ton léger, tout en éprouvant la souplesse d'une des lames. Il parut surpris.
« Je n'ai jamais tiré l'épée contre une femme, votre Altesse. Je doute que ce soit convenable. »
« Absurde ! » Elle lui lança une des armes. « En garde !» Elle attaqua sans autre forme de procès. Pris au dépourvu, le comte trébucha, mais son entraînement lui permit de parer d'instinct avec un talent stupéfiant. De ses propos, elle avait déduit qu'il n'avait acquis qu'une connaissance superficielle de l'escrime sportive. Elle constata vite son erreur. Il l'engagea avec détermination. Sa lame fouettait l'air si vite qu'on ne pouvait guère la suivre, et seules ses années de formation et de pratique permirent à la princesse de parer au jugé. Les tintements de métal résonnaient dans toute la salle. L'assistance restait bouche bée devant les deux instructeurs qui sautillaient de ci de là au gré d'un combat furieux. Sa reine n'avait pas l'habitude de tirer face à un adversaire aussi bon. De la même taille qu'elle, il réduisait à néant l'avantage dont elle bénéficiait d'ordinaire par son allonge, tout en disposant des réflexes et de la formation d'un soldat expérimenté, après une vie entière passée à combattre. Tous deux se déplaçaient dans la foule, en utilisant leurs élèves, les chaises et tout autre objet disponible pour gêner les attaques de l'adversaire. Vif comme l'éclair, il se fendait, puis se redressait pour parer, sans répit. La princesse se trouvait dépassée. Elle parvenait à contenir Eondel, mais se défendre l'occupait à tel point qu'elle n'avait plus le loisir d'attaquer. Le visage ruisselant de sueur, elle s'avisa que tout le monde la regardait. Alors, la posture du comte s'altéra. Il baissa sa garde et elle lui porta une botte par réflexe. Sa lame, terminée par un bouton, perça ses défenses et vint effleurer sa gorge. Il sourit.
« Je n'ai d'autre choix que de me rendre, madame. »
Sa reine eut honte de l'avoir placée dans une situation où, de toute évidence, il avait dû choisir de la laisser gagner pour lui éviter de perdre la face devant les autres. Il s'inclina. Elle se sentit ridicule. Ils revinrent ensemble sur le côté de la pièce et acceptèrent les coupes que leur tendait Lucel, qui les félicita pour leur performance. Tandis que la princesse se désaltérait, une idée frappante lui vint. Jusque-là, sa vie en Arellon lui paraissait une compétition, comme presque toute activité politique, un jeu complexe mais agréable. Ici pourtant, il en allait autrement. Son adversaire l'avait laissé gagner afin de préserver l'image qu'elle donnait. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un jeu. L'Arellon était son pays, les Arellois étaient son peuple, et il consentirait à n'importe quel sacrifice pour les protéger. C'est différent cette fois, sa reine. Si tu échoues, tu perdras bien davantage qu'un contrat commercial ou un permis de construire. Tu mettras des vies en péril, les vies de gens réels. Cette perspective la fit réfléchir. Eondel considérait sa coupe, les sourcils haussés.
« Ce n'est que de l'eau ? »
demanda-t-il en se tournant vers elle.
«
L'eau vous fera du bien, messire.
Je n'en suis pas si sûre. Où l'avez-vous trouvée ?
Je l'ai fait bouillir, puis reverser dans un seau pour lui rendre sa saveur. Je ne tenais pas à voir ces dames se tomber dans les bras les unes des autres, assommées par l'alcool.
Le vin arélois est plutôt clairet, ma cousine, dit Lequel.
Je le trouve bien assez fort.
Buvez, monsieur le comte, il ne faudrait pas que vous vous déshydratiez.
Il s'exécuta, sans se départir de son air soupçonneux. Elle se tourna vers ses élèves pour les prier de reprendre l'entraînement, mais celle-ci avait trouvé un nouveau sujet d'attention. Messire Chudaine se tenait près du fond de la salle. Les yeux fermés, il enchaînait les postures. Ses mains décrivaient des arabesques et son corps suivait avec grâce. Malgré la lenteur et la précision de ses gestes, il avait la peau luisante de sueur. On aurait dit une danse. Il effectuait de longs pas, levant le pied haut avant de le reposer par terre. Ses bras bougeaient sans cesse, les muscles saillants comme s'il luttait contre une force invisible. Peu à peu, il accélérait. La tension s'accrut encore, et bientôt il se déplaçait par bonds, fouettant l'air. Les femmes le dévoraient des yeux sans un mot, bouche bée. On n'entendait que le déplacement d'air et le choc sourd des pieds retombant par terre. Soudain, le jeune Jindoé atterrit une dernière fois, pieds joints, les bras tendus. Puis, il les replia vers sa poitrine, telles deux lourdes portes qu'on aurait lentement fermées. Enfin, il baissa la tête et poussa un profond soupir. Sa reine laissa passer un instant de silence, puis marmonna. « Domi miséricordieux, jamais je ne parviendrai à leur faire retrouver un semblant de concentration. » Éondel étouffa un rire.
« Chudaine est des plus intéressants. Il ne cesse de gémir que les femmes lui courent après, mais il ne peut pas s'empêcher de poser pour la galerie. Après tout, c'est un homme et un jeune homme par-dessus le marché. »
La princesse hocha la tête tandis que le Jindoé terminait son rituel et prenait un air penaud en se voyant le point de mire des regards. Il traversa les rangs de ses admiratrices, les yeux baissés, et rejoignant les deux instructeurs, accepta la coupe que lui proposait un Lequel hilar.
« C'était inattendu, » dit la jeune femme.
« Acceptez mes excuses, madame. »
Il but.
« Votre séance m'a donné envie de m'exercer. Je croyais que tout le monde serait si occupé à s'entraîner que nul ne me remarquerait. »«
Les femmes vous remarquent toujours, mon ami !»
Le comte secoua son chef grisonnant.
« La prochaine fois que vous vous plaindrez des avances de vos adoratrices, je me ferai un plaisir de vous rappeler ce petit fiasco !»
Le jeune baron acquiesça, les joues cramoisies. « Quel était cet exercice ?» s'enquit la princesse, intriguée. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. »«
Nous l'appelons Sheishan, » expliqua-t-il. « Il s'agit d'une sorte d'échauffement pour se focaliser avant un combat. »«
C'est impressionnant, » dit Lequel. « Je ne suis qu'un amateur, » dit l'autre en baissant la tête avec modestie. « Je manque de vitesse et de concentration. » Au Jindo, certains pratiquants se déplacent à une telle allure que les regarder vous donne le vertige.
« Bien, mesdames !» déclara sa reine en se tournant vers ses élèves, dont la plupart contemplaient toujours le Jindoé. Vous remercierez messire Chudaine pour sa démonstration un peu plus tard. Dans l'immédiat, il vous reste à pratiquer vos bottes. N'allez pas vous imaginer que je vais vous libérer au bout d'à peine quelques minutes d'effort. Un concert de gémissements réprimés s'éleva lorsqu'elle reprit sa cire et redémarra la séance. Elles se lèveront perclues de courbatures demain, déclara sa reine, avec un sourire.
Vous dites cela avec une telle passion, madame, qu'on pourrait croire que cette perspective vous plaît.
Haché pulsa légèrement. Cela leur fera du bien. La plupart de ces femmes sont si bichonnées qu'elles n'ont jamais éprouvé de douleur plus vive qu'une piqûre d'aiguille à coudre.
Je regrette d'avoir manqué la séance d'entraînement. Je n'ai pas assisté à un Sheishan depuis des décennies.
Tu en avais déjà vu ?
« J'ai vu bien des choses, madame. Un Séon vit vieux. »
La princesse opina. Il suivait de concert une rue de Caé. À l'arrière-plan s'élevait le mur colossal des Lantris. Des dizaines de vendeurs vantaient leur achalandage au passage de sa reine, que sa vêture identifiait comme venant de la cour. La localité existait au profit des aristocrates et se conformait à leur goût en poulet. Coupes plaquées or, épices exotiques et tenues extravagantes se disputaient l'attention de la jeune femme. Mais la plupart des marchandises lui soulevaient plutôt l'estomac. Apparemment, ces marchands formaient l'essentiel de la classe moyenne telle qu'elle subsistait en Arellon. À Caë, ils étaient en lice pour obtenir les faveurs du roi et, si possible, un titre nobiliaire, aux dépens de leurs rivaux, de quelques paysans et de leur dignité. Ce pays se transformait à toute vitesse en bastion d'un mercantilisme fervent, voire terrifié. La réussite n'apportait plus seulement la richesse, ni l'échec la pauvreté. Le revenu déterminait la distance qui séparait tel ou tel malheureux d'un esclavage virtuel. Sa reine repoussait du geste les marchands, mais cela ne les décourageait guère. Tourner un coin de rue pour apercevoir la chapelle qu'Aurati la soulagea. Résistant à l'envie de filer à toutes jambes vers sa destination, elle accomplit le reste du chemin d'un pas mesuré. Enfin, elle atteignit la grande porte de l'édifice et se glissa à l'intérieur. Elle laissa choir quelques pièces, il ne lui restait presque rien de l'argent apporté du Théode, dans le tronc, et partit à la recherche du prêtre. Elle se sentait à l'aise dans cette chapelle, qui, au contraire des bâtiments d'Héréti, austère, formelle, décorée de boucliers, de lances et de rares tentures, incitait à la détente. Des courtes pointes, offertes par des fidèles d'un certain âge sans doute, étaient accrochées au mur. Dessous s'alignaient des jardinières dont les fleurs bourgeonnaient par ce climat printanier. Les fenêtres, assez larges, combattaient l'impression de claustrophobie qu'on aurait pu ressentir sous le plafond bas.
« Bonjour, mon enfant !»
dit une voix venue d'une allée latérale. Aumune, le prêtre, se tenait près de l'une des fenêtres par laquelle il contemplait Caë.
« Bonjour, père Aumune !»
Sa reine lui fit une révérence.
« Je vous dérange ?»«
Bien sûr que non, mon enfant !»
D'un geste de la main, il l'invita à approcher.
« Venez là, comment allez-vous? Vous m'avez manqué lors de mon sermon hier soir. »
« Je suis navrée, mon père. »
La princesse sentit ses joues se colorer.
« Je devais assister à un bal. »
« Non, ne vous sentez pas coupable, mon enfant. Il ne faut pas négliger de nouer des relations sociales, surtout quand on vient d'arriver en ville. »
Elle sourit et se faufila entre deux bancs pour le rejoindre. La stature d'Aumune passait inaperçue d'ordinaire. Il s'était fabriqué une estrade pour ses sermons, de sorte qu'on avait du mal à discerner sa petite taille. Mais en se tenant près de lui, elle constata qu'elle le dominait littéralement de la tête et des épaules. Il lui arrivait à peine à la poitrine.
« Quelque chose vous fait souci, mon enfant ?»
Presque chauve, il portait une robe ample serrée à la taille par une écharpe blanche. Hormis ses yeux d'un bleu vif, la seule note de couleur sur toute sa personne était un pendentif corati en jade qui reproduisait l'Aon Aumu. Le prêtre était un homme bon, ce qu'elle n'aurait pas dit de tout un chacun même dans leur religion. Au Théode, elle en avait côtoyé plusieurs d'irritants. Mais Aumune était quelqu'un de réfléchi qu'on pouvait aimer comme un père, malgré son agaçante propension à se perdre dans ses pensées. Parfois, il se laissait distraire à tel point qu'il mettait plusieurs minutes à s'aviser qu'on attendait de le voir reprendre la parole.
« Je ne savais pas trop à qui d'autre m'adresser, mon père. Je suis censée accomplir l'épreuve de la veuve, mais nul ne veut m'expliquer de quoi il s'agit. »«
Ah oui !»
Son crâne lisse et brillant d'Odlina.
« Ce doit être déroutant pour une nouvelle venue. »«
Pourquoi personne ne veut-il m'en parler ?»«
C'est un rituel quasi-religieux qui remonte à l'époque où les Élantriens dominaient. » Tout ce qui implique cette idée est un sujet tabou en Arellon, surtout pour nos fidèles.
Et comment vais-je découvrir ce qu'on attend de moi ? Demanda-t-elle, exaspérée.
Ne vous tracassez pas, mon enfant. Le tabou relève de la coutume et non de la doctrine. Je ne pense pas que Domu voie d'objection à ce que j'assouvisse votre curiosité.
Merci, mon père, dit-elle avec un soupir de soulagement.
Votre époux a péri. On s'attend à ce que vous montriez votre chagrin, sinon on pensera que vous ne l'aimiez pas.
Il se trouve que je ne l'aimais pas, ou pas vraiment. Je ne le connaissais même pas.
Et cependant, par souci des convenances, vous devriez accomplir ce rituel. Par la sévérité de son épreuve, la veuve exprime quelle importance elle attachait à son union et quel respect elle accordait à son époux. S'en priver passerait pour un mauvais signe, même de la part d'une étrangère.
Ne s'agit-il pas d'une coutume païenne ?
Pas vraiment. Ce sont les Élantriens qui l'ont instituée. Mais elle n'avait rien de commun avec leur religion. On peut y voir un témoignage de gentillesse, devenu au fil du temps une tradition bienveillante et admirable.
Sa reine haussa les sourcils. « Franchement, je m'étonne de vous entendre parler d'eux en ces termes, mon père. » Il la dévisagea, le regard pétillant.
« Mon enfant, le fait que les Artêtes d'Hérétie les haïssent ne signifie pas que Domu les haïssait, lui. Je ne crois pas que les Élantriens étaient des dieux, et nombre d'entre eux avaient une opinion exagérée de leur propre statut, mais j'avais des amis parmi eux. Le Chaod a pris les bons et les méchants, les égoïstes et les généreux. Certains des hommes les plus nobles que j'ai jamais connus vivaient là-bas. J'ai été navrée de voir ce qui leur arrivait. »
La princesse hésita. « Faut-il y voir la main de Domu, mon père ? A-t-il choisi de les maudire comme on le prétend ?»«
Tout advient selon la volonté de Domu, mon enfant. Je doute fort toutefois que « maudire » soit le terme exact dans ce cas. Si Domu juge bon d'infliger un désastre à un peuple ou une maladie mortelle à un enfant innocent, il ne s'agit pas plus d'une malédiction que ce qui est arrivé à Elantris, mais tout simplement de la marche du monde. Toute chose doit progresser et la progression ne se fait pas toujours en pente douce. Tantôt il faut tomber, tantôt il faut monter. Certains doivent souffrir tandis que d'autres connaissent la bonne fortune. Car c'est la seule façon dont nous pouvons apprendre à nous appuyer les uns sur les autres. Les fortunés ont ainsi le privilège d'aider ceux qui mènent une existence plus rude. L'unité naît dans les difficultés, mon enfant.
Vous ne pensez donc pas que les Élantriens survivants sont des démons ?
Les Svrakis des Fjordels ?
S'enquit Omune, amusée.
Non, mais on raconte que c'est ce que prêche le nouveau Giorn. Je crains que ces décrets n'apportent que la haine.
Elle se tapota la joue. C'est peut-être ce qu'il veut.
Quel serait l'intérêt ?
Je l'ignore, reconnut la princesse.
J'ai du mal à concevoir qu'un fidèle quelconque, même un Giorn, poursuive un tel but.
Son regard se perdit dans le vague, tandis qu'il y réfléchissait, les sourcils froncés. Mon père ? Demanda sa reine. Mon père ! À la seconde incitation, Omune s'ébroua, comme surpris de découvrir sa visiteuse toujours là.
« Pardon, mon enfant, de quoi parlions-nous ? »
Vous n'aviez pas fini de m'expliquer en quoi consistait l'épreuve de la veuve. Les digressions abondaient quand on devisait avec le petit prêtre.
« Ah oui, l'épreuve de la veuve. En bref, mon enfant, on s'attend à ce que vous rendiez service au pays. Plus vous aimiez votre époux, et plus vous occupez une situation sociale élevée, plus votre épreuve doit être extravagante. La plupart des femmes distribuent de la nourriture ou des vêtements aux paysans. Plus grande sera votre implication personnelle, et meilleure sera l'impression que vous donnerez. L'épreuve est une façon de servir, un moyen de rendre leur humilité aux puissants.
Mais où vais-je trouver l'argent ? Sa reine ne savait pas encore comment, au juste. Elle allait demander à son père une allocation.
« L'argent ? » répéta Omune, surpris. « Mais voyons, vous êtes une des personnes les plus riches d'Arellon. Vous l'ignoriez ? »
« Quoi ? » ?»«
Vous avez hérité les biens du prince Raoden. Il était très riche, son père y a veillé. Sous le règne de Yadon, il serait fort peu judicieux que l'héritier de la couronne possède moins de fortune qu'un duc. De même... Le souverain ne saurait tolérer que sa bru ne soit pas fabuleusement riche. Il vous suffira de vous adresser au trésorier royal et je suis certain qu'il prendra soin de vous.
Merci, mon père. Sa reine étreignit le petit homme avec affection. J'ai du travail à faire.
J'ai été ravie de vous recevoir, mon enfant,
dit Omune, en posant de nouveau sur Kaé un regard contemplatif.
Je suis là pour ça.
Mais elle aurait parié qu'il avait déjà, peu après sa dernière phrase, oublié sa présence pour arpenter, une fois de plus, les longs chemins de son esprit.
Dehors, le Séon flottait près de la porte à l'attendre, avec sa patience habituelle.
« Je ne vois pas le problème, » lui dit sa reine. « Omune aimait les élantriens. Que tu entres ne l'aurait pas dérangé. »
Haché émit une brève pulsation. Il n'avait plus pénétré dans une chapelle Khorati depuis que Seynalan, le patriarche de la religion, l'avait expulsé de l'une d'elles.
« Ne vous inquiétez pas, madame. Selon moi, quoi qu'un prêtre dise, chacun de nous appréciera de ne pas voir l'autre. »
« Je gâche que tu te trompes, mais je ne vais pas discuter. Tu as entendu notre conversation ?»«
Les Séones ont de bonnes oreilles, madame. »«
Les Séones n'ont pas d'oreilles. Qu'en as-tu pensé ?»«
Qu'il s'agit d'une bonne façon pour vous d'acquérir une certaine notoriété en ville. »«
Je suis bien d'accord. »«
Encore une chose, madame. Vous avez évoqué tous les deux le prêtre d'Héréti. » L'autre nuit, pendant que j'inspectais la cité, j'ai remarqué le Giorn Raten sur le grand mur. J'y suis retournée à plusieurs reprises, toujours de nuit, et je l'y ai revu deux fois. Il m'a paru très amical avec le capitaine de la garde des Lantris.
« Qu'essaie-t-il de faire avec cette cité ? » dit-elle, frustrée.
« Moi aussi, cela me laisse perplexe, madame. »
Sa reine fronça les sourcils. Mettant en parallèle Elantris et ce qu'elle savait des actes du Giorn, elle ne vit aucun rapport. Mais sa réflexion lui inspira une idée. Elle pouvait résoudre un de ses problèmes et, par la même occasion, gêner Athènes. « Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il mijote pour lui faire obstacle. »«
Cela vous serait pourtant utile, madame. »«
Je vais devoir m'en passer. Nous savons une chose. » Si le Giorn tient à ce que le peuple déteste les élantriens, je dois veiller à ce que ce soit le contraire qui se produise.
Haché hésita.
Qu'est-ce que vous préparez, madame ?
Tu verras, dit-elle avec un grand sourire. Regagnons déjà mes appartements. Il y a un bon moment que je veux parler avec père.
Haine, je suis ravie que tu m'appelles. Je m'inquiétais à ton sujet.
La tête scintillante d'Eventéo planait devant elle.
« Tu aurais pu me faire demander à tout moment, père. »«
Je ne voulais pas m'imposer, chérie. Je sais combien tu tiens à ton indépendance. »«
Pour l'heure, mon devoir prime sur mon indépendance. Des nations s'effondrent. On n'a pas le temps d'épargner nos sentiments respectifs. »«
Je le note, » dit son père avec un petit rire.
« Comment va le Théode ?»«
Assez mal. »
Il prit un ton sévère, inhabituel.
Le danger rôde partout. J'ai dû réprimer un nouveau culte des mystères Jeskeri. Il en surgit toujours à l'approche d'une éclipse.
Sa reine frissonna. Les sectateurs des mystères étaient des individus bizarres auxquels Eventéo n'aimait guère se frotter. Et elle avait décelé une certaine réserve dans sa voix. Il avait un autre sujet de préoccupation. Il y a plus, n'est-ce pas ?
Je crains que oui, Haine, reconnut-il. Il y a pire, en fait.
« Quoi donc ? » ?»«
Tu connais Ashgress, l'ambassadeur du Fjorden ?»«
Oui. »
Elle fronça les sourcils.
« Qu'est-ce qu'il a fait ? Lancer l'anathème sur toi ? » ?»«
Pire encore. »
Le visage de son père lui parut hagard.
« Il est parti. »«
Parti ? Du Théode ? Après tout le mal que le Fjorden s'est donné pour nous faire accepter le retour de ses représentants diplomatiques ?»«
Justement, Haine. » Il a emmené tout son entourage, fait un dernier discours sur le port et disparu sans autre forme de procès. Le tout semblait revêtir un caractère plutôt définitif.
C'est préoccupant, convint sa reine.
Le Fjorden avait sué sang et eau pour une présence au Théode. Ashgress n'avait pu partir qu'en réponse à un ordre personnel du Virn. Et la démarche avait un parfum de finalité.
J'ai peur, Haine.
La phrase la glaça. Eventéo était l'homme le plus solide qu'elle connaisse.
Tu ne devrais pas dire des choses pareilles.
Je ne le dis qu'à toi, Haine. Je veux que tu comprennes la gravité de la situation.
Je sais. Je comprends. Il y a un Giorn ici, à Kae.
Son père marmonna des jurons qu'elle ne l'avait jamais entendu employer.
Je pense pouvoir m'occuper de lui, père,
se hâta-t-elle d'ajouter. On se tient mutuellement à l'œil.
Lequel est-ce ?
Il s'appelle Raten.
Eventéo jura de nouveau. Avec encore plus de véhémence.
Idos Domu, tu sais de qui il s'agit? Du Giorn qui a été assigné au Duladel durant les 6 mois précédant sa chute.
C'est bien ce que j'avais cru comprendre.
Tu dois partir, Saren. Cet homme est un danger public. Sais-tu combien de pertes humaines la révolution du Duladen a entraîné? Il y a eu des dizaines de milliers de victimes.
Je sais, père.
Je t'envoie un navire. On organisera la résistance ici, où les Giorn ne sont pas les bienvenus.
Je ne partirai pas, père, dit-elle résolument.
Saren, sois logique.
Il prit la voix posée qui lui servait lorsqu'il tentait de la persuader. Il y arrivait souvent, même s'il était l'un des rares.
Chacun sait que le gouvernement Arelwa ne vaut rien. Si ce Giorn a renversé celui du Duladel, il n'aura aucun mal à en faire autant en Arelon. Tu ne peux pas compter l'arrêter si tu as le pays entier contre toi.
Je dois rester, père, quelle que soit la situation.
À qui veux-tu te montrer loyal? À un mari que tu n'as jamais connu? À un peuple qui n'est pas le tien?
Je suis la fille de leur roi.
Ici aussi, tu es fille de roi. La différence, un peuple qui te connaît et te respecte.
On me connaît, mais pour ce qui est de me respecter... Écœurée par un afflux de sentiments importuns, elle se carra dans son fauteuil. C'était ces mêmes sentiments qui l'avaient poussée à quitter son pays natal, à abandonner tout ce qu'elle connaissait pour rejoindre une terre étrangère.
« Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Aene, »
souffla Eventeo d'une voix peinée. Elle soupira et ferma les yeux. « Oh père, tu ne pouvais pas voir ce qui se passait. Je faisais ta joie. J'étais ta fille, si belle, si intelligente. Personne n'aurait osé te dire ce qu'on pensait vraiment de moi. »«
Mais de quoi parles-tu ?»
Il s'exprimait cette fois avec toute l'autorité du souverain. « Père, j'ai 25 ans. Je ne mâche jamais mes mots. Je me complais dans les intrigues et je me montre souvent choquante. Tu auras sans doute remarqué qu'aucun homme ne t'a demandé ma main. » Il hésita.
« Je m'étais interrogé, » finit-il par admettre.
« J'étais la fille du roi, la vieille fille, la mégère dont nul ne voulait. » Elle tenta en vain de chasser l'amertume de sa voix. On riait de moi sous cap. Aucun homme n'aurait osé m'approcher avec des intentions amoureuses, sachant que ses semblables se seraient moqués de lui.
« Je croyais simplement que tu étais indépendante, que tu les considérais tous comme indignes de toi. »
Sa reine eut un rire sans humour. « Tu m'aimes. » Les parents refusent d'admettre que leur fille puisse déplaire. La vérité, c'est qu'aucun homme ne veut d'une épouse intelligente.
« Ce n'est pas vrai, » répliqua-t-il aussitôt. « Ta mère est une femme brillante. »
« Tu constitues une exception, père. C'est pour ça que tu ne le vois pas. Dans ce monde, une femme forte n'a rien d'un atout. Même au Théode, dont je maintiens qu'il s'agit d'une nation beaucoup plus avancée que les autres. La distinction est ténue. Nos hommes affirment donner plus de liberté à leurs femmes, mais pour donner quelque chose, il faut que cela vous appartienne. Au Théode, je suis une fille célibataire. En Arelon, je suis une veuve. La différence est énorme. J'aime le Théode. Mais je devrais vivre en sachant que nul ne veut de moi. Au moins ici, je peux m'efforcer de me convaincre que quelqu'un m'a choisi, même si c'était pour des motifs politiques.
On peut te trouver quelqu'un d'autre.
Inutile, père. Maintenant que Théorn a des enfants, mon mari éventuel n'aura aucune chance de monter sur le trône, ce qui est la seule raison pour laquelle un de nos concitoyens pourrait accepter de m'épouser. Le joug d'Ereti empêchera tout étranger de l'envisager. Cela ne laisse que l'Arelon, où, selon les termes du contrat nuptial, je n'ai pas le droit de me remarier. Non, père, il n'y a plus personne pour moi. Tout ce qui me reste, c'est à utiliser ma position ici. Au moins, en Arelon, je peux m'attirer un certain respect sans devoir me soucier de la façon dont mes actes affecteront ma capacité à convoler dans l'avenir.
« Je vois, » dit Eventeo.
Le déplaisir troublait sa voix, si égale en temps normal.
« Père, dois-je te rappeler de ne pas te tourmenter à mon sujet? Nous avons des problèmes plus importants à traiter. »«
Je ne peux que me faire du souci pour toi, bâton de Leki. Tu es ma fille unique. »
Elle secoua la tête, bien décidée à changer de sujet avant de se mettre à pleurer. Soudain honteuse d'avoir détruit la vision idyllique qu'il avait d'elle, elle chercha à détourner la conversation.
« Oncle Kiin est ici, à Kae. »
Sa reine obtint le résultat escompté. Elle l'entendit retenir sa respiration. Puis,
« Ne mentionne plus jamais ce nom, Aene. »
Mais,
non !»
Elle soupira.
« Très bien. Parle-moi du Fjorden, alors. Que crois-tu que le Vir ne prépare ?»
Il accepta la diversion.
Cette fois, je n'en ai aucune idée. Ce doit être cataclysmique. Du nord au sud, les frontières se ferment à nos marchands et nos ambassadeurs commencent à disparaître. Je songe à les rappeler tous.
Et tes espions ?
Ils disparaissent presque aussi vite. Aucun n'a réussi à se faufiler dans le Veldin depuis plus d'un mois, et Domu sait ce que le Virne et ses Giorni trafiquent. Dépêcher des espions au Fjorden revient plus ou moins à les envoyer à la mort.
« Mais tu les envoies quand même, » murmura Saren, en devinant d'où venait le chagrin dans la voix de son père.
« Il le faut. Ce que nous découvrons pourrait sauver des milliers de vies. Mais cela ne me rend pas la tâche plus aisée, et j'aimerais pouvoir poster quelqu'un à Dakor. »
« Au monastère ?»«
Oui. Ce que font les autres, nous le savons. Radbor forme les assassins, Fjeldor les espions, et le reste se charge des guerriers. Mais Dakor m'inquiète. Il m'est revenu des histoires épouvantables sur ce monastère, et je ne comprends pas pourquoi quiconque, fût-il d'Ereti, voudrait commettre de telles atrocités. »«
Est-ce que le Fjorden mobilise ?»«
Difficile à dire. Apparemment pas, mais va savoir. » Le Virne pourrait lancer une armée multinationale sur nous en très peu de temps. Ma seule consolation, c'est que je ne crois pas qu'il nous sache au courant de ce fait. Malheureusement, être au courant me met dans une position intenable.
Comment cela ? Eventeo hésita.
Si le Virne nous déclare la guerre sainte, ce sera la fin du Théode. Nous ne pourrons jamais résister à la puissance combinée de tous les pays de l'Est. Et je ne resterai pas les bras croisés à regarder les miens se faire massacrer.
« Tu envisagerais la reddition ?» demanda-t-elle, outragée.
« Un souverain a pour devoir de protéger son peuple, Aene. Si je dois choisir entre la conversion et l'annihilation, je crois savoir quelle sera ma décision. »«
Tu plierais comme les Jindoé ?»«
Les Jindoé sont des sages, sa reine. »
La voix de son père se raffermissait.
« Ils ont fait le nécessaire pour survivre. »«
Mais cela signifierait renoncer !»
Cela signifierait faire le nécessaire. Mais l'heure n'est pas encore venue. Tant qu'il nous reste deux nations, l'espoir subsiste. Toutefois, si la Rélone tombe, je serai contraint de me rendre. On ne peut pas combattre le monde entier, Aene. Pas plus qu'un grain de sable ne peut combattre l'océan.
Mais... Elle laissa sa phrase en suspens. Son père se trouvait dans une situation difficile. Combattre le Fjorden sur le champ de bataille serait futile au possible. Se convertir ou mourir. Même si les deux étaient détestables, se convertir semblait le choix le plus logique. Pourtant, une petite voix en elle soutenait qu'il valait mieux mourir si la mort prouvait la supériorité de la vérité sur la force brute. Elle devait s'assurer qu'Eventeo n'aurait jamais à choisir. Si elle parvenait à arrêter Athènes, elle parviendrait peut-être à arrêter le Virne aussi, ou du moins à le retarder.
« Je vais bel et bien rester ici, père, » déclara-t-elle.
« Je sais, Aene. Ce sera dangereux. »«
J'en ai bien conscience. Mais si la Rélone tombe, il y a des chances pour que je préfère être morte que de voir ce qui se passe au Théode. »«
Sois prudente et tiens ce Giorn à l'œil. Au fait, si tu découvres pourquoi le Virne coule les bateaux de Yadon, préviens-moi. »«
Quoi ?» demanda-t-elle, choquée.
« Tu n'es pas au courant ?»«
Au courant de quoi ?»
Le roi Yadon a perdu presque toute sa flotte marchande. Le rapport officiel attribue sa destruction à des pirates, des vestiges de la marine de Dreog Brisegorge. Mais mes sources accusent plutôt le Fjorden.
C'était donc ça ?
Quoi donc ?
Il y a 4 jours de cela, j'étais à une fête. Un serviteur a fait part au roi d'un message qui l'a grandement affecté.
Cela correspond. J'ai appris la nouvelle il y a 2 jours pour ma part.
Pourquoi le Virne coulerait-il des navires inoffensifs ? À moins... Idos Domu. Si le roi perd ses revenus, il risque de perdre son trône.
Le rang lié à la fortune ? Cette absurdité est donc vraie ?
Dans toute sa stupidité, répondit sa reine. Yadon prive de son titre nobiliaire toute famille qui ne parvient pas à garder sa richesse. Perdre sa source de revenus s'apprête son trône. Rathen pourrait alors le remplacer par quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus réceptif au chu d'Eret. Sans même se donner la peine de fomenter une révolution.
Cela paraît réalisable. Yadon s'est piégé en concoctant un système de gouvernement aussi instable.
Je table sur le duc Tellery. Voilà pourquoi il a dépensé autant pour son bal, pour démontrer son assise financière. Je ne serais pas surprise qu'il y ait une montagne d'or fjordel derrière ses dépenses somptuaires.
Que comptes-tu faire ?
Les arrêter, en dépit de mes sentiments personnels. Je ne peux vraiment pas souffrir Yadon, père.
Hélas, il semble bien que Raten ait choisi nos alliés à notre place.
Saren hocha la tête. Il m'a rangé du côté d'Elantris et de Yadon. Je connais des positions plus enviables.
Chacun fait de son mieux avec ce que Domu lui octroie.
On croirait entendre un prêtre.
J'ai eu motif à devenir très croyant cet an dernier.
Elle se tapota la joue en formulant sa réponse. Un choix avisé, père. Si Domu devait nous aider, le moment serait des plus propices. La fin du Théode marquerait celle du Chukorat.
Une fin provisoire, sans doute.
On ne peut pas vaincre la vérité, sa reine, même s'il arrive aux gens de la perdre de vue à l'occasion.
Sa reine était au lit, toutes lampes éteintes. Haché planait de l'autre côté de la pièce. Sa lumière tamisée à tel point qu'il se réduisait à la silhouette de son Naon, comme peinte sur le mur. La discussion avec son père avait pris fin une heure plus tôt, mais elle sentait que ses implications la hanteraient durant des mois. Si elle n'avait jamais envisagé la reddition, celle-ci apparaissait désormais presque inévitable. Cette perspective la tourmentait. Jamais le Virne ne le laisserait sur son trône, conversion ou pas. Et elle savait qu'Eventeo n'hésiterait pas à donner sa vie pour épargner son peuple. Elle évoquait aussi sa propre vie et ses souvenirs du Théode, fort contrastés. Il s'y trouvait ce qu'elle aimait le plus. Son père, son frère, sa mère, les forêts autour de Théouin, leur port et leur capitale. Elle se rappelait la neige aussi. Un matin, elle s'était réveillée pour trouver le paysage entier recouvert d'une pellicule de glace. Les arbres gancés ressemblaient à des joyaux scintillants sous le soleil hivernal. Pourtant, le Théode évoquait aussi le chagrin et la solitude. Il représentait son exclusion de la vie sociale, ses humiliations face aux hommes. Elle avait constaté dès son enfance qu'elle possédait un bel esprit de répartie et une langue acérée, deux traits qui la différenciaient des autres femmes. Non que toutes manquent d'intelligence, elles avaient simplement la sagesse de le dissimuler jusqu'à leur mariage. Si tous les hommes ne recherchaient pas une épouse idiote, rares étaient ceux qui se sentaient à l'aise en présence d'une femme qu'ils savaient leur supérieure sur le plan intellectuel. Le temps que sa reine s'en rende compte, les quelques-uns qui auraient pu la tolérer étaient déjà mariés. Au désespoir, elle avait cherché à découvrir quelle opinion d'elle prévalait chez les courtisans de sexe masculin et apprendre combien ils la tenaient en ridicule l'avait mortifiée. Par la suite, cela n'avait fait qu'empirer, et elle n'avait fait que vieillir. Dans un pays où une femme était au moins fiancée dès ses 18 ans, la princesse était une vieille fille de 25. Une vieille fille ergoteuse doublée d'une grande perche. Un bruit interrompit sa séance d'auto-dénigrement. Issu non pas du couloir ni de la fenêtre, mais de sa chambre. Le souffle court, elle se redressait sur son séant, prête à bondir, quand elle s'avisa qu'il provenait en fait du mur de la pièce. Perplexe, elle fronça les sourcils. Il n'y avait rien derrière. Sa chambre se trouvait sur le devant du palais. Elle possédait une fenêtre qui donnait sur la ville. Le silence s'étirait. Bien résolue à prendre un peu de repos malgré ses angoisses, sa reine se persuada qu'il s'était agi du bâtiment qui se tassait.